C'est une affiche de film donc qui s'appelle The Lazarus Effect, avec l'accent. Donc en français, ça donne l'effet Lazare. C'est un film qui est sorti il y a 2 semaines environ, il n'y a pas très longtemps, et ça tombait à pic pour cette prédication, alors on s'est dit on va l'utiliser au début. C'est une histoire de mort-vivant. En fait, c'est une équipe de médecins qui met au point un médicament qui peut redonner vie aux morts. Et comme l'affiche le laisse à penser, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, je vous laisse imaginer la suite. J'ai pas vu le film, mais voilà ce qu'ils en disaient. Alors, depuis quelque temps, le monde est fasciné par les morts-vivants, hein. Ces créatures mi-mortes, mi-vivantes, on ne sait pas trop ce qu'elles sont. Il y a beaucoup de films, de livres, de séries télé qui sont sur ce thème. Ça semble toujours à la mode, en fait. Et on peut se demander pourquoi une telle fascination pour les morts-vivants. Moi, je pense tout simplement parce que ça fait peur, hein, et que la mort fait peur, en fait, parce que la mort signifie la fin pour beaucoup de monde dans notre société. Alors ce matin, Marion et moi, on va pas parler de mort-vivant, on va parler d'un mort qui est revenu complètement à la vie. Et comme on le montrait sur l'affiche, il y avait le nom Lazare, on va parler de Lazare aujourd'hui et de sa résurrection. Et on voit son histoire dans Jean 11, versets 17 à 44. Alors pour commencer, avant de se plonger complètement dans le passage, on a besoin d'un petit récapitulatif de la situation dans laquelle on se trouve. En fait, ce chapitre est un peu un tournant dans l'évangile de Jean, avec le chapitre 12 qui suit, il forme une transition entre la première partie, où c'est l'évangile de Jésus, son ministère, il fait des miracles, il fait des signes, et la deuxième partie, le récit de la Passion, où Jésus arrive à Jérusalem et se dirigera vers la croix. Dans les chapitres juste avant, 7 à 10, à plusieurs reprises, les responsables juifs accusent Jésus de blasphémer parce qu'il se déclare être le Fils de Dieu. Et à plusieurs reprises, Jésus doit se dégager de la foule pour s'enfuir. Et au chapitre 10, Jésus se retire à l'est du Jourdain, en Pérée. Et pendant ce temps, Marthe, Marie et leur frère Lazare, des proches de Jésus, des amis, se trouvent dans le village de Béthanie en Judée. Et lorsque Lazare tombe malade, en fait, un message est envoyé à Jésus. Mais Jésus ne part pas tout de suite voir Lazare. Et lorsque Lazare meurt, Jésus, à ce moment-là, se met en marche. Et sur le chemin, il dévoile aux disciples ce qui va se passer. La résurrection de Lazare servira à glorifier Dieu et fortifier leur foi. Et donc, ils arrivent à Béthanie face à une situation de deuil très chargée en émotions. Et dans le passage qu'on vient de lire, Jésus dialogue avec Marthe et Marie, on l'a vu avec les personnes qui l'ont lu. Et on peut voir quatre attitudes de Marthe et Marie auxquelles Jésus répond de quatre manières, en fait. Donc, la toute première, c'est le reproche mêlé de foi de Marthe. Parce que la première des sœurs à réagir, c'est Marthe. Marthe qui est active, qui est dynamique. Je ne sais pas si vous vous rappelez du passage dans Luc où Marthe fait la vaisselle, s'occupe des invités pendant que Marie écoute Jésus. Donc là, encore une fois, on a Marthe qui prend les devants et qui va vers Jésus. Et sa réaction est double. C'est un regret teinté de reproche qu'elle adresse à Jésus. Si tu avais été ici, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Et on sent qu'il y a de la frustration mêlée à de la tristesse dans ce que dit Marthe. Quand tu as eu notre message, pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite, Jésus? Maintenant, c'est trop tard. Mais la mort de son frère n'a pas brisé sa foi. La deuxième partie de sa réaction est empreinte de confiance à Jésus. On peut le voir, hein. Elle sait que Dieu accorde toutes choses au Fils. Ce que Jésus demande, son Père l'accorde. Jésus est l'intermédiaire privilégié entre elle et le Père. L'accès à Dieu se fait par le Fils. La réponse de Jésus à cette attitude de Marthe est de dire qu'il est souverain sur la situation. Parce que lorsqu'il a appris la maladie de Lazare, Jésus a choisi de venir que 2 jours plus tard. On peut se demander pourquoi est-il pas parti immédiatement le rejoindre. Parce qu'en plus, au verset 17, donc au tout début de notre passage, Jésus apprend que Lazare est enterré depuis 4 jours déjà. Et à cette époque, 4 jours, on considérait le mort comme véritablement mort, en fait. Il n'y avait plus d'espoir de retour. Donc, face au reproche de Marthe de ne pas avoir été là, la réponse de Jésus est positive et, on dit en anglais, « straight to the point », elle va à l'essentiel, quoi. « Ton frère reviendra à la vie », lui dit Jésus. Et cette affirmation, je trouve qu'elle démontre tout le contrôle qu'a Jésus sur la situation. S'il a attendu avant de venir, c'est le signe qu'il agissait selon un plan précis. Il savait ce qui devait se passer. Et l'objectif précis, le plan précis, on le voit au verset 4. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Donc Jésus maîtrise toutes choses, chacun de ses déplacements, chacune de ses paroles. Il agit selon son heure. Il est souverain. Et la phrase de Marthe nous renvoie à nos propres interrogations, à nous. « Seigneur, je sais que tu tiens toutes choses entre tes mains, mais pourquoi t'agis pas, là, dans cette situation ? Pourquoi ne fais-tu rien ? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est souverain dans tous les domaines de notre vie ? On peut se raccrocher à la promesse de Dieu en Matthieu 28, 20, qui dit « Et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Ce qui nous mène à la deuxième attitude de Marthe. Elle a son espérance dans le futur. Au verset 23, donc, comme je l'ai dit, « Ton frère reviendra à la vie », dit Jésus. Ces paroles, il y a quand même une petite ambiguïté, c'est au futur. On ne sait pas s'il s'agit de maintenant ou de plus tard. Et Marthe donne une réponse comme le peuple juif de l'époque avait cette croyance en la résurrection à venir. Et elle répond, comme son peuple, lors de la résurrection des morts, oui, je crois à cela. Elle voit cela dans le futur et non pas au présent. La résurrection pour elle, c'est le futur, c'est pas le présent. Et à cela, Jésus répond, je suis la résurrection et la vie au présent. Il est la vie, il donne la vie éternelle. Par la foi en lui, la mort n'a plus d'emprise. Elle devient seulement une étape. Et on voit que Jésus est la source quand il dit « je suis ». En lui est la vie. Et on peut se rappeler le passage où il donne de l'eau à la Samaritaine, où il se décrit comme le pain de vie aussi avant ça. Jésus se donne et il est au centre. Marthe ensuite, au verset 27, fait une confession de foi au Christ. Elle place sa confiance en Jésus, en 3 temps. Dans le Christ, le Messie, celui qui a été choisi par Dieu, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, une personne de la Trinité, et finalement celui qui devait venir, celui qui est envoyé par Dieu dans le monde, envoyé pour nos péchés. Pendant ce temps-là, il y a Marie. Et on voit dans ce passage toute la tristesse qui la prend. À la différence de Marthe, elle est restée à la maison, assise dans son deuil. Et lorsque Marthe lui dit que le Christ est là, elle se précipite et se jette à ses pieds. Et elle a la même réaction que Marthe, mais plus courte. « Si tu avais été ici. » Et peut-être qu'elle a été submergée par l'émotion, elle n'a pas pu aller plus loin. Et cette attitude atteint directement Jésus. Et il compatit avec la tristesse de Marie, et en 3 fois. Tout d'abord, Jésus fut profondément indigné et ému, au verset 33. À l'époque, cette période de deuil, il y avait beaucoup de monde qui accompagnait les personnes endeuillées, et la foule devait être en train de crier, de se lamenter. C'était la tradition. Et la vue d'un tel groupe a saisi Jésus, si bien qu'il est pris d'un mouvement de colère, en fait. C'est ça qui est dit dans « indigné ». colère face à la mort, colère face au péché qui a encore une emprise sur le monde. Le Dieu saint ne supporte pas le mal. Il l'a en horreur. C'est cette colère qui fait réagir Jésus. Ensuite, deuxième temps, c'est au verset 35. Jésus pleura. Le verset est court et ça le rend encore plus poignant. Que le Fils de Dieu puisse pleurer, c'est quelque chose d'incroyable. Et pourtant, Jésus est affligé devant ce qui arrive. Ça montre aussi à quel point Jésus est pleinement homme lorsqu'il pleure la mort de son ami Lazare. Et finalement, la troisième, c'est « Jésus fut profondément bouleversé » au verset 38. C'est la troisième fois qu'on dit ce que ressent Jésus. C'est lorsqu'il arrive en face du tombeau. Et je trouve l'émotion que Jésus a montre aussi le fait qu'on a un Dieu qui se préoccupe de nous, qui se penche sur nos problèmes, qui compatit à nos souffrances. Et toute cette attitude de Jésus envers le péché qui nous atteint et sa compassion ensuite nous montre tout l'amour qu'il a pour nous et un amour qui sera manifesté plus tard à la croix. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on répond favorablement à cet amour chaque jour de notre vie, comme on l'a chanté? On peut avoir en tête le passage d'Éphésiens 3, 17 à 19, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. La quatrième et dernière attitude de Marthe est qu'elle reste très terre à terre, en fait. Quand Jésus ordonne de rouler la pierre, elle nous surprend par sa réaction. C'est presque comique. Elle dit « Oui, mais il doit déjà sentir, ça fait 4 jours. » On ne comprend pas trop, il y a une espèce de retour en arrière par rapport à ce qu'elle a dit au verset 27. Elle est reprise par les considérations très terrestres, en fait. Et elle entend l'ordre de Jésus, elle se dit mais à quoi bon ? Et face à cette attitude, Jésus va ressolliciter la foi de Marthe. Et là, il est très pédagogue, en fait. Il affirme ensuite, la résurrection servira à manifester la gloire de Dieu. Gloire de Dieu avec un objectif précis, affermir la foi des témoins. On le voit au verset 41 et 42 à la suite. Et tous les personnages présents, Marthe, Marie, les disciples, vont ressortir de cette expérience transformée, avec une foi beaucoup plus solide encore. Finalement, Manu qui lisait Jésus l'a bien fait. Jésus-Christ, Lazare sort de là et le miracle se fait. Mais pour revenir sur ce sujet de la foi, on voit que la foi des personnages progresse tout au long du passage. Et ça nous fait réfléchir à notre propre parcours de foi, tout simplement. Est-ce que j'accepte que Dieu me modèle par les épreuves, me façonne par les épreuves? Est-ce que je suis endurant dans les épreuves? On peut se rappeler du passage de Romains 5, 3. « Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » Alors, ce qui est central dans ce que nous venons de voir, c'est la réaction de Marthe face à l'annonce de la résurrection. Et la réplique de Jésus au verset 25 et 26. Je suis la résurrection et la vie. Et ça, c'est Marion qui va traiter plus en détail.
Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Alors, la résurrection de Lazare annonce la mort de celui qui donne la vie, mais qui est aussi la vie. Comme vient de nous le dire Simon, ce passage se situe dans le verset 25 et 26, et il est le centre de ce passage. Dernier miracle de son ministère, début de sa passion, Jésus, par ces quelques mots, marque la transition de ces deux périodes de sa vie. Et il annonce l'événement majeur de sa venue sur terre. Je suis la résurrection et la vie. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la résurrection? Et qu'est-ce que la vie? Alors tout d'abord, la résurrection. La résurrection, d'abord, c'est la promesse d'un accès à la vie éternelle. En effet, si nous croyons en lui, le Christ nous garantit notre salut et la victoire sur la mort. Jésus est la résurrection et il incarne notre espérance pour le futur. La mort physique n'est plus une échéance fatale, car grâce à la vie éternelle, nous avons un avenir en Dieu et que rien ne peut compromettre. Alors, peur de la mort, angoisse face à l'avenir, je voudrais vous dire que Dieu vous a déjà libéré de la mort. Et il a déjà remporté la victoire. Nous pouvons donc, dès aujourd'hui, lui remettre toutes nos situations, toutes les situations de nos vies, et lui faire entièrement confiance. En Ésaïe 25, verset 8, il est écrit « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » La résurrection, c'est aussi la promesse d'un corps glorifié. Donc, dans ce passage, nous voyons que Lazare ressuscite, mais il ressuscite dans un corps terrestre. Jésus, par cette résurrection, annonce quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est la résurrection des corps dans la Nouvelle Jérusalem. Ces corps-là ne seront plus des corps terrestres. Ce sera des corps glorifiés, des corps célestes. Ce sera surtout un corps impérissable et semblable à celui du Christ. Et cela nous est dit en Philippiens 3, verset 21. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Je voudrais maintenant vous encourager à faire de la résurrection le centre de votre vie et surtout le centre de votre quotidien. Christ est mort, il est ressuscité, dans son grand amour il nous a donné sa vie. Combien de fois avons-nous déjà entendu ces mots? Et surtout, combien de fois les avons-nous laissés glisser sur nous, par habitude? Tout à l'heure nous avons chanté « Sur ta beauté, nous fixons nos regards ». Maintenant, je voudrais vous encourager à ne pas vous laisser gagner par cette habitude, mais à vous laisser interpeller à nouveau par la beauté de la croix. Laissons-nous toucher une fois encore par cet amour inconditionnel que Dieu a manifesté pour nous en nous donnant son Fils à la croix. Comme Marthe, faisons de Jésus le centre de notre vie à chaque instant. Alors aujourd'hui, quelles sont les situations qui vous empêchent de lui faire totalement confiance? Quelles sont les situations qui vous empêchent de le mettre pleinement au centre? L'habitude dans nos prières, l'habitude dans nos louanges, l'habitude dans notre écoute de la parole est à mon avis bien trop souvent présente. Que maintenant, ces paroles viennent parcourir votre être tout entier et vous conduisent à ses pieds. Est-ce que vous réalisez combien l'amour du Christ est long, haut, large et profond? En acceptant de perdre la sienne, Jésus nous a donné la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle et c'est une vie en abondance. Alors la vie, justement. Jésus est la vie et il nous la donne. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Quelle est sa nature? Et comment la vivre? La vie éternelle que Jésus nous offre n'est pas seulement à venir. Elle commence dès aujourd'hui, ici et maintenant. Alors comment? Par la foi. Oui, les amis, c'est par la foi que Christ nous communique la vie. Et c'est en lui que nous vivons. L'espérance de la résurrection est une espérance vivante, et cela nous est dit en 1 Pierre 1:3. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. C'est dans l'exercice de notre foi que nous trouverons la vie en abondance. Car le secret de la joie se trouve dans notre relation renouvelée avec le Père. Alors, prenons ce temps jour après jour pour entretenir notre relation avec lui, pour le louer, pour le prier, pour lire sa parole. Et c'est ainsi que notre foi grandira. Et c'est ainsi que le Christ nous communiquera la vie. Alors oui, croire, c'est un défi quotidien et c'est parfois tellement difficile. Mais je voudrais vous encourager à ne pas vous décourager et à persévérer pour faire grandir votre foi toujours plus. Parce que c'est la vie qui vous attend au bout du chemin. Alors restons fermement accrochés à cette espérance. En parlant de la résurrection tout à l'heure, nous avons parlé de la victoire sur la mort. Et cette espérance, nous l'expérimentons déjà aujourd'hui en passant de la mort à la vie. Et c'est ce que nous appelons la vie nouvelle. Alors comme Lazare, nous étions aussi morts. Nous étions morts car nous étions coupés de notre relation avec Dieu. Mais Jésus nous a ressuscités et nous a offert le don gratuit de la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes morts. En naissant de nouveau, nous acceptons la dureté du renoncement à nous-mêmes. Et c'est ça la mort, c'est renoncer à nous-mêmes. C'est ce qui caractérise cette vie nouvelle. Oui, suivre Jésus implique l'acceptation du risque. Suivre Jésus, c'est porter sa croix. Et porter sa croix, ça veut dire accepter parfois d'être dans une situation d'inconfort, accepter des difficultés de l'existence. Il nous faut renoncer à toutes les attaches qui nous empêchent de suivre Jésus. Ces attaches peuvent être l'amour de l'autre qui prend trop de place, des biens matériels ou l'amour de moi-même. Mais ce renoncement nous conduit vers une attente beaucoup plus grande. Plus nous perdons notre vie et plus nous la retrouverons. Nous avons cette assurance d'être restaurés dans notre personne en renonçant à nous-mêmes. Ici, la mort, c'est le renoncement à soi. Et la vie que Christ nous offre et qui est la victoire sur la mort, c'est le plein épanouissement de notre relation avec Dieu. Alors finalement, comment vivre cette vie promise par Christ aujourd'hui? Que devons-nous mettre en pratique? L'épreuve est venue frapper à la porte de Marthe. La tristesse intense qui a dû être sienne est indescriptible. Aucune parole, aucune présence, absolument rien ne pouvait la consoler. Comment surmonter une souffrance aussi insoutenable que la mort de son propre frère? Marthe avait déjà cette espérance. L'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle. Et c'est cet espoir qui lui a permis d'affronter la mort de son frère. Sa tristesse, ses regrets sont mêlés de foi et d'espérance. Et son calme et sa patience, à mon avis, témoignent de l'impact que l'espérance de la résurrection avait déjà sur sa vie présente. Parce que la résurrection est l'espoir suprême de Marthe. Sa vie entière est renouvelée et portée par cette espérance. Et nous aujourd'hui, de quelle façon notre vie est-elle centrée sur la vie éternelle? De quelle manière cette promesse transforme-t-elle notre vie de tous les jours? Nos pensées, nos actes, notre façon d'aimer, notre façon de répandre l'évangile, nos réactions face aux différentes situations de notre vie, toutes ces choses sont-elles dirigées vers l'espoir de la résurrection? La vie éternelle devrait être notre but ultime. et notre espérance suprême, comme il l'était pour Marthe. Il me semble que le discours chrétien est souvent porté vers le passé ou vers le futur. Nous parlons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous parlons de ce que nous serons quand il reviendra sur cette terre. Mais il me semble que trop souvent, nous oublions que Jésus est déjà vivant et présent aujourd'hui au milieu de nous. C'est ici et maintenant qu'il veut nous donner la vie. C'est ici et maintenant que nous devons apprendre à vivre dans sa présence. Alors, je pense que nous devons apprendre à vivre dans le présent. Car c'est dans le temps présent que Dieu se révèle à nous et nous donne la vie en abondance. En Jean 10, verset 10, il est écrit « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » En parlant de cette manière, Jésus parlait bien de cette vie présente et pas seulement d'une vie future. Ne sommes-nous pas parfois beaucoup trop pressés, trop impatients de passer à autre chose ? Stressés par les exigences de la vie, nous passons parfois beaucoup trop vite sans approfondir ce qui se présente à nous aujourd'hui. À travers cette hâte, nous pensons gagner du temps, mais en fait, nous le jetons par la fenêtre. Nous ne pouvons pas vivre la vie si nous ne la vivons pas en plénitude. Et nous pouvons vivre la vie en plénitude seulement quand nous vivons pleinement l'instant. Alors pourquoi ? Parce que c'est dans l'instant que nous pouvons rencontrer et être éveillés à la présence de celui qui est. C'est dans l'instant que nous pouvons être éveillés et rencontrer celui qui est. Anne Voskamp, dans son livre « Mille cadeaux », a écrit « Où que vous soyez, soyez-y complètement. Et faites de chaque instant une cathédrale à la gloire de Dieu. C'est ici et maintenant, le seul lieu où je peux l'aimer. C'est ici et maintenant, le seul instant où je peux vivre sa présence. » Alors que devons-nous retenir ? Il me semble que trois points essentiels se distinguent. Et ces trois points articulent passé, futur et présent. Comment vivre la vie en abondance dès aujourd'hui, Premièrement, en faisant du miracle de la croix le centre de chacune de nos journées sans entrer dans l'habitude. Deuxièmement, en faisant de la résurrection future l'espérance qui, dès aujourd'hui, impacte sur notre vie. Et troisièmement, en vivant dans le présent, car la vie éternelle commence ici et maintenant. Bref, vous l'avez compris, la vie en abondance, c'est le souvenir de la croix, l'espérance de la résurrection et la contemplation de Dieu dans l'instant présent.